Bonjour et bienvenue dans l'accent des autres. C'est comme chaque semaine l'essentiel de l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics que sont la Radio-Télévision Suisse, RFI, France Bleu, Radio-Canada et la RTBF. Et on va commencer par une retraite annoncée, celle d'un géant du tennis mondial, le Suisse Roger Federer a annoncé jeudi dernier qu'il allait mettre un terme à sa carrière. Pierre Anchoffat.
À 41 ans, il a décidé d'écouter son corps. Avec son retrait, la Suisse perd un ambassadeur de premier plan.
Les funérailles de la reine Elisabeth II d'Angleterre, c'est ce lundi à Londres. La cérémonie sera suivie un peu partout dans le monde et notamment au Canada, Mélanie Wood.
La mort de la souveraine britannique suscite bien des réactions au pays et soulève aussi des questions.
En France, on scrute toujours désespérément sa facture énergétique. Nous irons à Marseille et à Paris pour rencontrer des citoyens et des administrations qui prennent des mesures, Éric Valmire.
Toujours le coût de l'énergie à la une en France, un bouclier tarifaire prolongé, mais une augmentation reste une augmentation.
Et puis en Belgique aussi, les prix de l'énergie inquiètent sérieusement et ils poussent de plus en plus de communes à prendre des décisions en vue de la Coupe du Monde de football, Joël Meert.
Pas de chapiteaux et pas d'écran géant pour la retransmission des matchs. Des décisions prises pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons éthiques.
Enfin, sur le continent africain, il sera question cette semaine d'une crise ouverte entre le Mali et la Côte d'Ivoire, Nicolas Sûr.
Oui, les relations ne cessent de s'envenimer depuis l'arrestation début juillet à Bamako d'une cinquantaine de soldats ivoiriens.
Et voilà donc pour le sommaire de cette semaine. Impossible de passer à côté ces derniers jours, en Suisse en particulier évidemment. Pierre Anchoffat, la retraite annoncée de Roger Federer est partout.
Émission spéciale, une de tous les journaux du pays. L'annonce a provoqué une déferlante médiatique, une annonce en anglais sur les réseaux sociaux.
I've played more than 1,500 matches over 24 years and now I must recognize when it is time to end my competitive career.
Il a joué plus de 1500 matchs en 24 ans. Il a bien dû reconnaître qu'il était temps de s'arrêter. Après ses opérations au genou, il s'est battu pour revenir à la compétition, mais son corps lui a dit stop.
Et les réactions ont bien sûr été nombreuses, Pierron, en Suisse et à travers le monde.
Carlos Alcaraz, le tout jeune numéro 1 mondial, et son émoticône en forme de cœur brisé, ou le « Bienvenue au club des retraités » malicieusement tweeté par Serena Williams. Et puis en Suisse, la ministre des Sports qui regrette d'avoir perdu un fantastique ambassadeur. Pour Nicolas Bidot, chargé de promouvoir la Suisse à l'étranger, Federer incarnait la Suisse.
Federer jouait de manière précise, il a duré longtemps, il est fiable, il est modeste, il est humble. Son caractère, sa façon d'être, c'est des incarnations parfaites de l'image de la Suisse. Mais on avait aussi quelqu'un qui avait la dimension d'un mythe. Il est tombé, il était blessé, il a regagné à l'Open d'Australie en 2017. Donc on a quelqu'un qui est de l'ordre du mythe. Il va exister au-delà du jeu. Mais c'est vrai qu'on a un deuil à faire sur cet homme qui gagnait pour la Suisse, qui perdait aussi parfois pour la Suisse, mais qui avait une visibilité médiatique immense par rapport à ça. Mais la légende va perdurer.
Et pour revenir au tennis proprement dit, l'image de Roger va planer encore longtemps. C'est en tout cas l'espoir de l'ancienne joueuse Christiane Jolissin, membre de la direction de Swiss Tennis.
Aujourd'hui, c'est vrai que dans les clubs, on a beaucoup, beaucoup de juniors et ils veulent lui ressembler. C'est tout à fait extraordinaire. Donc là, on est vraiment en train de surfer sur cette vague Federer. Espérons qu'elle va durer longtemps, mais son apport au niveau du tennis suisse est extraordinaire.
Et de se prendre à rêver en pensant à la finale 100% helvétique de Roland-Garros l'an dernier, c'était chez les juniors.
Les suites à présent du décès de la reine Elisabeth II, après les hommages multiples à Londres en particulier, la souveraine sera inhumée ce lundi. Depuis l'annonce de sa mort, les cérémonies se succèdent donc. Elles sont suivies partout et notamment au Canada, qui avait un lien particulier avec Elisabeth II. Mélanie, quel était en fait son rôle au Canada?
Le Canada est une monarchie constitutionnelle qui avait une reine et qui a maintenant un roi comme chef d'État. Sur l'avis du premier ministre, le monarque nomme un Canadien qui le représente au Canada. C'est le gouverneur général. Le gouverneur général est celui qui dissout le Parlement et qui accorde la sanction royale au projet de loi adopté par le Parlement. Pendant le long règne de la reine Élisabeth II, 13 premiers ministres ont été élus au Canada. La reine a également nommé 13 gouverneurs généraux.
Et la reine avait véritablement un amour particulier pour le Canada.
Élisabeth a visité le Canada pour la première fois à l'automne 1951. Elle était alors princesse et représentait le roi George VI, son père. Pendant son règne, la reine a effectué 22 tournées officielles au Canada, soit plus que dans tout autre pays du Commonwealth. Elle avait également un amour pour la langue française. Quand elle venait au Québec, elle s'exprimait en français. Voici un extrait lors de son passage à Québec en 1964.
Il m'est agréable de penser qu'il existe dans notre Commonwealth un pays où je puis m'exprimer officiellement en français, une des langues les plus importantes de notre civilisation occidentale.
Voilà pour cette archive de 1964. Mélanie, comment les Canadiens voyaient-ils la reine Élisabeth II?
Beaucoup de Canadiens aimaient la reine, c'est indéniable. Voici quelques réactions après l'annonce de sa mort.
Ma grand-mère elle collectionnait toutes les affaires du famille royale.
Ça m'a jamais touché la famille royale, là, mais je trouve qu'elle, comme personne, elle a fait vraiment quelque chose.
Ça me fait de la peine parce que je la voyais régulièrement. Ça a été une bonne reine.
Cet amour pour la reine, la population ne l'a toutefois pas nécessairement pour la monarchie. Selon un récent sondage de la firme Léger, plus des trois quarts des Canadiens disent ne pas être attachés à la monarchie britannique. Reste maintenant à voir si le nouveau roi Charles III pourra les convaincre du contraire.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En France, la crise énergétique reste au cœur de l'actualité comme ailleurs. Des mesures sont annoncées, Éric Vallemire. Et notamment la prolongation de ce bouclier tarifaire qui protège les Français d'une hausse de prix trop importante grâce à l'intervention de l'État.
Le bouclier tarifaire est prolongé, conséquence une hausse des prix du gaz et de l'électricité limitée à 15%. Mais 15%, c'est déjà beaucoup. Suivons Philippe Bocara de France Bleu Provence dans les quartiers populaires de Marseille.
Et j'arrive dans la petite maison de 50 mètres carrés de Simone, 80 ans, et Marcel, 82. Leur mutuelle, mais aussi leur électricité, leur coûte cher, près de 700 euros par an. Même s'ils ont un chèque énergie, cette hausse...
C'est beaucoup, hein, sur une petite retraite.
Comment vous allez faire?
Et comment je vais faire? Ben, je vais tirer la ficelle. Et le jour où on n'arrivera plus à payer, ben, on ne payera plus. Il faudra comme beaucoup, ils font.
Et pour Marcel, payer ses factures, c'est un devoir, même s'il doit se priver notamment de nourriture.
Nous, ça ne nous arrange pas de ne pas vouloir payer nos factures. Hein, on veut vivre normalement ce qu'il y a à payer, mais au moins que ce soit raisonnable. Là, ça n'est plus raisonnable. Plus ça va, plus on est restreint.
Vous faites attention sur l'électricité à la maison?
Bien sûr, on n'est que deux. On a une maison qui n'est pas grande, et ceux qui ont des gorges pas chères, je me demande comment ils font pour s'en sortir.
À Paris, c'est la mairie qui annonce des mesures. Nathalie Domenego, de France Bleu Paris.
École, complexe sportif, bibliothèque, bureau administratif. Là, la température passera de 19 à 18 degrés le jour, fait savoir Anne Hidalgo, avant d'ajouter.
Et la nuit, dans ces bâtiments-là, on descendra à 12 degrés. Et aussi pour toutes les périodes où ces bâtiments seront inoccupés, je pense, au week-end. Mais bien sûr, on est pragmatique. Si on se prend un mois de novembre avec des moins 5, moins 10, on adaptera pour que quand même on puisse vivre.
Et tout un symbole, Olivier, la Tour Eiffel ne scintillera plus à minuit.
Oui, la Tour Eiffel qui effectivement sera éteinte en fin de soirée dès la semaine prochaine. C'est aussi des questions d'énergie, mais pas seulement, qui poussent plusieurs communes belges à prendre des décisions au sujet de la Coupe du Monde de football au Qatar, Joël Meert.
Il y a quelques semaines déjà, la commune de Braine-le-Comte, dans le Hainaut, annonce que chez elle, il n'y aura ni chapiteau, ni écran géant. Braine-le-Comte, c'est pourtant la commune des joueurs belges Eden et Thorgan Hazard. Mais voilà, pour son bourgmestre Maxime D, cela aurait été un non-sens.
Ici, on allait devoir mettre un énorme chapiteau puisqu'on accueille plus de 4000 personnes. Effectivement, on est le fief des Hazard, on a cette fierté en nous. Ici, ça voulait dire grand chapiteau, chauffage, évidemment, pour chauffer cet énorme chapiteau. Et on s'est rendu compte que c'était complètement artificiel et teinté de non-bon sens.
L'argument est économique. On sera en hiver, ce sera très cher vu les prix de l'énergie. Mais il y a aussi la question éthique mise en avant par la commune de Braine-le-Comte.
Ici, le problème avec le Qatar, c'est qu'ils enchaînent les polémiques. Et donc, à un moment donné, que ce soit pour le droit du travail, le droit de la femme, le droit de l'homme au sens large du terme, ben, il fallait qu'on pose un geste. Et donc, c'est un geste politique, mais progressivement, l'un mis à la suite de l'autre. J'espère qu'on arrivera comme ça à faire des gestes beaucoup plus cohérents pour l'avenir.
Des gestes plus cohérents posée par une série de communes déjà en région wallonne, et la liste risque bien de s'allonger dans les semaines qui viennent.
Enfin, l'actualité sur le continent africain avec ce bras de fer cette semaine entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire parle de chantage dans le chef du Mali. Nicolas, le pays réclame que lui soient livrés des opposants maliens installés à Abidjan en échange de la libération de 46 soldats ivoiriens détenus depuis 2 mois à Bamako.
Oui, l'affaire commence le 10 juillet quand ces soldats sont arrêtés à l'aéroport de Bamako. Les autorités maliennes les accusent d'être des mercenaires et les inculpent de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État. La Côte d'Ivoire proteste. Elle assure que ces soldats sont en mission pour l'ONU dans le cadre d'un appui à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. L'ONU commence par le confirmer, puis rétropédale et reconnaît un problème quant au statut administratif de ces militaires. Les relations entre les deux pays sont déjà tendues, le Mali tenant le président ivoirien pour responsable du durcissement des sanctions de la communauté ouest-africaine contre la junte au pouvoir. Elles deviennent dès lors franchement exécrables.
Et après plusieurs médiations, Bamako a formellement fait une demande la semaine dernière à la Côte d'Ivoire qu'elle extrade des personnalités maliennes qui vivent ou qui séjournent sur son territoire pour libérer les militaires.
Allusion notamment à Karim Keïta, le fils du président renversé Ibeka, à l'ancien ministre des Affaires étrangères Tiémen Hubert Koulibaly ou encore à l'ancien chef du gouvernement Boubou Cissé. La junte au pouvoir assure qu'il bénéficie de la protection d'Abidjan pour déstabiliser le Mali. Les autorités ivoiriennes dénoncent alors un chantage inacceptable. Cette demande, disent-elles, est la preuve que les soldats ivoiriens emprisonnés ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages.
Et un sommet exceptionnel des chefs d'État de la communauté ouest-africaine devrait avoir lieu sur le sujet la semaine prochaine à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà qui va refermer l'accent des autres pour cette semaine avec Nicolas Sûr pour RFI. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure avec les médias francophones publics, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, RFI, France Bleu et la RTBF. Excellente fin de semaine à vous.